Virginie Labroche, bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc on se retrouve pour la présentation de cette saison, on va dire deuxième partie de saison, si on parle en saison artistique, pour donc tout ce qui nous amène jusqu'en juin, voire même juillet 2019.
C'est exactement ça.
Donc le Louvre lance, on le sait, a évidemment ses collections, ses événements temporaires, et puis son espace scénique, dédié donc à la musique, à la danse et à plein d'autres choses, donc du spectacle vivant.
Tout à fait, on a du théâtre, on a de la danse, on a des spectacles vraiment pour tous les publics, de tous les styles, de tous les genres. On a bien sûr, vous l'avez dit, de la musique ancienne, mais aussi de la musique, des musiques actuelles, des conférences, puisque c'est un volet important aussi de la programmation. Et on essaie vraiment de proposer autour de chaque exposition et autour de la Galerie du Temps et du Pavillon de Verre, d'avoir des propositions qui à la fois aide le visiteur parfois à comprendre le propos de l'exposition, c'est le cas notamment des conférences, et puis aussi on est aussi dans une notion de plaisir, on n'est pas que dans de l'apprentissage ou de la pédagogie, donc il y a aussi cette idée de pouvoir se divertir et de pouvoir prolonger un peu la visite de l'exposition. Vous venez au Louvre-Lens, vous pouvez vous balader dans le parc, vous pouvez aller voir l'exposition, vous pouvez déjeuner sur le site et vous pouvez aussi prolonger la soirée ou dans l'après-midi voir un spectacle, passer un bon moment entre amis, en famille ou même tout seul, dans cet écrin qui est quand même très très beau.
Donc le temps fort de ce semestre, c'est quand même Homère.
Oui, c'est la grande exposition qui va débuter le 27 mars, grande exposition autour d'Homère, autour de l'Iliade, de l'Odyssée, de ces deux grands fleuves qui sont vraiment des récits fondateurs de notre culture. C'est une première mondiale, c'est la première fois qu'on va autant parler d'Homère et parler aussi de toute l'inspiration en fait homérique, comment les artistes, depuis l'Antiquité, mais aussi encore aujourd'hui, s'inspirent d'Homère, s'inspirent de l'Iliade, des épisodes de l'Odyssée qu'on connaît. On en connaît certains, il y a des expressions même de la langue française qui reprennent des épisodes de l'Odyssée. Mais voilà, on a tous en tête Ulysse, les sirènes, le cyclope, Circé, Calypso, tous ces grands héros aussi de l'Iliade, Achille. C'est vraiment un univers, Homère, qui nous habite tous au même titre que d'autres très grands récits fondateurs, Gilgamesh, les récits bibliques, etc. C'est vraiment très très présent. Et donc l'idée, c'était de faire une programmation pour faire découvrir ou redécouvrir Homère au travers de spectacles, de musique, de toute cette inspiration homérique.
Homère qui est au programme des collèges, avec les classes de 6e qui, on va dire, sont initiées un petit peu à... Alors, est-ce qu'on peut dire à cette écriture ? C'est peut-être plus compliqué de dire écriture.
Alors effectivement, on parle d'écriture, on parle surtout d'oralité avec Homère. Homère, d'ailleurs, la question de son existence se pose toujours. On a cette image du vieux barbu, aveugle. C'est comme ça qu'il est représenté. Mais en fait, on sait très peu de choses sur Homère. On est vraiment dans des récits qui se transmettent par l'oralité, par l'aède, le poète, qui va déclamer comme ça toutes ces grandes aventures, toutes ces épopées. Et effectivement, c'est une très bonne entrée pour la jeunesse parce que donc c'est au programme de 6e. Mais même avant, je trouve que même en primaire, les enfants, les récits de l'Antiquité grecque, les héros, les super-héros, les dieux, les déesses, les enfants adorent. On adore l'Égypte, la France aime beaucoup la mythologie égyptienne, mais on adore aussi la Grèce antique. Oui, je pense que c'est important pour les enfants, c'est des récits qui les font voyager, parce que c'est aussi beaucoup d'histoires c'est la guerre, l'Iliade, et c'est le voyage pour l'Odyssée. Donc c'est au programme de 6e, et en 5e, les héros sont aussi au programme. Donc vous voyez que ça se prolonge encore pendant 2 ans au collège sur ces questions-là.
Donc pour cette programmation artistique, on va dire de spectacle et de conférences, vous êtes bien sûr calé sur l'agenda aussi du Louvre en termes d'exposition. Vous avez fait appel à la fois à des artistes, à des compagnies d'artistes et aussi à des scènes qui nous entourent, qui sont dans ce bassin, ex-bassin minier, on va dire, hein, et qui travaillent en synergie avec le Louvre, voire réciproquement d'ailleurs.
Oui, c'est ça. Alors, il y a notamment un projet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est un projet qu'on a avec la Comédie de Béthune, où on a demandé à 4 auteurs, des jeunes auteurs qui travaillent beaucoup sur les écritures contemporaines théâtrales, vraiment de faire des résidences dans des collèges. Donc, ils passent 15 jours pour la plupart d'entre eux dans un collège du territoire à Lens, à Béthune, à Bruay, à Salomine. Et donc, en discutant avec les élèves d'Ulysse, de l'Odyssée, de l'Iliade, ils vont réécrire chacun une escale de l'Odyssée, on va dire. Vous savez qu'Ulysse, sur son parcours, a fait plusieurs escales. On aura une escale sur le territoire. Voilà, c'est un projet qu'on aimerait prolonger, peut-être après. Ces textes seront lus déjà dans le parc au mois de juin. Il y aura une lecture déambulatoire et peut-être après, ça donnera naissance à un spectacle à voir. Et puis effectivement, sur cette période, là, entre janvier et juin, il y a aussi d'autres partenariats, ce qu'on appelle, nous ici, des scènes ouvertes. C'est un moment où on travaille avec nos partenaires du territoire, avec le Colisée de Lens, avec Culture Commune, la scène nationale, avec le gymnase, qui est un centre de danse à Roubaix, avec l'Opéra de Lille, voilà, toutes les structures partenaires de ce territoire avec lesquelles on a l'habitude de travailler, avec lesquelles on aime bien travailler. On fait des échanges de public, on a des propositions communes. Et donc, il y aura des spectacles comme Le Dîner, qui est un spectacle très joyeux de théâtre autour d'un texte d'Eric Reinhardt, qu'on co-accueille avec la ville de Lens. Il y aura également Ambra Senatore, une chorégraphe d'origine italienne qui dirige maintenant un centre chorégraphique en France, qu'on va accueillir à Culture Commune, un spectacle qui s'appelle Sena Madre, qui est vraiment un spectacle comme une enquête en fait, comme un puzzle où on a des bouts de scène comme ça qui démarrent un petit peu à différents endroits du plateau jusqu'au moment où on va comprendre finalement qu'il y a une, voilà, qu'elles sont liées les unes aux autres, ce qui n'est pas évident au tout début. Et c'est très très jouissif pour nous en tant que spectateurs que d'un coup comprendre que ah d'accord, ce petit moment que j'ai vu tout à l'heure est lié à celui-là. Voilà, d'autres propositions en danse, en jeune public aussi avec nos autres partenaires. Donc oui, c'est une saison assez riche.
En Virginie Labroche, vous avez parlé tout à l'heure de l'oralité, de cette transmission orale d'Homère ou de ce qu'on imagine être ce qu'il a dit. Il y a aussi la partie musicale qui est importante dans cette programmation. Qu'est-ce qui reste exactement des propositions musicales de l'époque? Comment on peut avoir une idée de l'ambiance sonore de cette époque?
Alors ça, on l'avait déjà un petit peu traité lors d'une exposition qui s'appelait Musique, écho de l'Antiquité, où on a parfois effectivement retrouvé, alors, beaucoup en Égypte. En Égypte, on a des partitions qu'on a réussi à traduire, à lire. Il y a quelques compagnies qui réinterprètent de la musique à la manière antique. Alors moi, je suis absolument pas spécialiste de cette question. On peut jamais vraiment savoir si on fait le son juste, même quand on a retrouvé des instruments, d'ailleurs, datant de l'Antiquité, qui ont été pour certains plutôt bien conservés. Il s'agit de les rejouer et on ne sait jamais exactement comment ils se jouaient à l'époque et quels étaient leurs dans quel contexte ils étaient joués. Donc effectivement, on est, mais ça c'est un peu le travail de tout historien, on est sur de la réinterprétation, on imagine, on a des pistes d'enquête aussi, pour le coup, de réflexion, de travail, l'archéologie, etc. Donc là, on va avoir des propositions plutôt inspirées. On aura notamment une conférence d'un musicologue sur cette question de l'inspiration homérique depuis la musique baroque jusqu'à nos jours. On a le retour d'Ulysse dans sa patrie de Monteverdi qu'on va proposer en opéra filmé. On voit déjà que c'est une thématique qui était retranscrite et dans la musique. Ces grands récits homériques ont aussi inspiré les musiciens, les compositeurs, les metteurs en scène, les autres auteurs, etc. C'est pour le coup, le fleuve continue de se déverser jusqu'à nos jours.
Donc Homère, c'est la guerre, c'est l'aventure. L'aventure moderne, s'il fallait trouver une correspondance pour des jeunes qui se projettent dans l'avenir, ça pourrait être quoi? Est-ce qu'au travers des spectacles que vous proposez, des gens, des spectateurs peuvent imaginer un avenir où l'aventure ferait partie non seulement du décor, mais de leur vie, par exemple?
J'espère que l'aventure fait partie de leur vie d'une manière générale. Et il y a vraiment la question du voyage. Il y a la question du voyage chez Homer qui est très importante, la question des guerres aussi qui est malheureusement encore contemporaine pour nous. Mais la question du voyage, je trouve qu'elle est intéressante aussi par rapport à ce territoire, parce que le voyage, c'est la curiosité de la rencontre de l'autre. On a tout un cycle qu'on a appelé migration, qui est pour moi assez important. C'était une question importante aussi pour Marie Lamandier, la directrice du musée, qui voulait qu'on relie cette thématique à l'actualité. Parce qu'effectivement, il y a le retour d'Ulysse dans sa patrie, justement, il y a ce voyage et ses périples. Et la question de l'hospitalité, qui est très très forte chez Homer. Question qu'on se pose aujourd'hui avec l'accueil des migrants, avec tout ce qui se passe en Méditerranée, les guerres, etc., qu'on a déjà abordé ici d'ailleurs. Donc oui, bien sûr, il y a l'imaginaire, il y a l'aventure, il y a la découverte de l'autre, il y a la rencontre. Et je pense que ça, c'est en tout cas au musée du Louvre-Lens des valeurs qui sont importantes. La curiosité, la découverte et l'histoire de l'art, mais pas uniquement. On est aussi un lieu qu'on espère convivial. En tout cas, c'est important pour les équipes ici d'être très proche des visiteurs, d'être à leur écoute et puis c'est pas toujours drôle la vie, donc d'avoir des moments de joie, de divertissement, de plaisir. Voilà, la notion de plaisir, elle est très importante aussi. Aussi aller vraiment dans l'ADN de ce musée et donc dans la programmation aussi.
Alors un partenariat peut-être à mentionner avec La Vie Active, hein, qui est une association qui a à la fois des publics de jeunes en difficulté intellectuelle, mais aussi des gens qui sont pour le coup migrants et qui ont évidemment de gros problèmes. Et donc cette association qui intervient pour une de vos manifestations, peut-être qu'on peut reparler de cette action d'une certaine manière.
Oui, alors ce sera le 25 mai à 15h. On accueillera Michel Agier pour une conférence sur les pérégrinations d'Ulysse, donc vraiment sur la question à nouveau du texte hein, d'Homer. Et puis c'est une conférence un peu particulière puisqu'on accueillera aussi des jeunes de La Vie Active qui sont des migrants, voilà, qui sont arrivés dans notre département, qui sont actuellement à Béthune, des mineurs pour la plupart, qui ont chacun des parcours très différents. On leur donnera la parole. On va travailler avec eux aussi sur des ateliers de théâtre, justement, qui seront menés en amont. Hein. On va commencer avec eux dès le mois de mars-avril. Donc, ouais, c'est un beau projet. Le volet social est important aussi pour nous. Et c'est important, je trouve, d'entendre cette parole parce que c'est beaucoup d'images dans les médias. Mais aller à la rencontre de ces gens qui ne sont absolument pas différents de nous et de pouvoir discuter, d'échanger sur leur parcours extrêmement difficile, je trouve que ça fait partie de nos missions. Voilà, on a des missions de service public et provoquer la rencontre, ça fait partie de nos missions.
Est-ce que les migrants, alors je pose une question peut-être bizarre, mais sont des visiteurs aussi du Louvre-Lens?
Alors on en a eu de façon certaine, alors plutôt via des associations, mais on en a eu, je peux vous le dire, parce qu'à la Seine, on a eu tout un groupe de Syriens notamment. On avait accueilli un jeune danseur, chorégraphe, Mitskal Asgahir, qui est lui-même migrant, puisqu'il a quitté la Syrie pour maintenant s'installer en France, vraiment au pire moment de la guerre. Et donc on avait eu une association effectivement de migrants qui était accompagnée par cette association et qui était venue voir un spectacle. Donc certains, oui, bien sûr, certains viennent visiter le musée, peut-être pas en tant que visiteur lambda, parce que je pense qu'il y a malheureusement d'autres choses, d'autres urgences en tout cas à leur arrivée pour eux. Mais la culture, ça fait partie des besoins de chaque être humain, presque au même titre que se nourrir et se loger. Donc c'est en tout cas important de les accueillir, de leur faire découvrir le musée, de leur faire découvrir ce que nous, on a envie de proposer. Et puis on a des œuvres ici issues du, je vais pas dire du monde entier encore, mais on a aussi voilà, des choses qui peuvent les toucher, des spectacles, des propositions. Donc oui, il y en a.
Donc un moment, on va dire, de confusion peut-être sociale, mais aussi culturelle, comment le Louvre peut être un élément, enfin un acteur d'une certaine forme de fédération?
Alors, je pense que c'est une très grande question, mais vous savez, on est en train de réécrire le projet scientifique et culturel du musée, ce qui est un grand, grand projet, puisque les projets s'écrivent sur 10 ans. Et la question, cette question du volet d'être un acteur majeur sur le volet social, mais pas uniquement. Il y a aussi des questions écologiques, il y a toutes les questions de société en fait. On traverse dans la galerie du temps 5000 ans d'histoire. Nous, on est un musée, on est un musée qui est dans la vie contemporaine, et on est effectivement une institution aussi. Donc c'est important qu'on soit un peu fédérateur et en même temps qu'on soit aussi un lieu de rassemblement. On peut être un lieu central pour accueillir des associations, pour organiser des rencontres, pour avoir des projets. On essaie toujours de faire quand je dis des projets en partenariat, il y a les structures culturelles, mais pas uniquement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs qu'on accueille et avec lesquels on travaille, que ce soit le secteur social ou l'éducation nationale ou d'autres volets. On est un lieu de vie, en fait, vraiment.
Donc un lieu de vie et un lieu aussi de représentation de la vie et de l'art au travers du temps. Ici donc au Louvre-Lens, une saison nous attend pour en savoir davantage, le site web.
Le site web www.louvrelance.fr et vous retrouverez toutes les informations, la programmation des activités et la programmation des spectacles vivants existe sous forme de brochures aussi, que vous pouvez vous procurer au musée et ailleurs. Et puis on vous attend avec plaisir.
Merci Virginie Labroche.
Merci à vous.